La Monnaie, le livre du peuple, section 15. Ne l'oubliez jamais, nulle société, nulle vie sans le devoir. Et la religion n'est dans ses préceptes que le devoir même, et dans ses doctrines que l'ensemble des vérités qui forment la base immuable, éternelle du devoir. Celui qui se déclare sans religion se déclare donc en dehors du devoir, en dehors des sentiments, des croyances unanimes, de l'universel instinct, il nie l'intelligence et la conscience humaine, sa nature et les lois de sa nature. Il nie la société, il se nie lui-même. Car sans la société, comment subsisterait-il? Que serait-il? Si chaque homme ne devait rien aux autres hommes, les autres non plus ne lui devraient rien. Perpétuellement, radicalement en guerre avec eux comme avec tous les êtres, il offrirait au sein de l'univers l'effrayant assemblage d'une convoitise illimitée et d'une impuissance infinie. Y a-t-il une misère égale à cette misère? Le premier fruit du devoir, de l'exactitude à le remplir, est au contraire l'actuelle jouissance d'un bien-être au-dessus de tous les biens, le calme intérieur et la paix, et le doux contentement, et cette joie pure qui console l'âme des traverses de la vie, et la transporte et la dilate comme en un monde meilleur. La vertu est d'abord sa propre récompense, et le vice engendre la punition qui le suit infailliblement. De combien de soucis, d'inquiétudes, de maux de toutes sortes n'est-il pas la source? Vîtes-vous jamais le méchant heureux? La richesse, le pouvoir peuvent être son partage, mais ni le pouvoir ni la richesse ne sont le bonheur. Et si vous saviez quelle plaie hideuse recouvre d'ordinaire les vêtements d'or et de soie, si elle vous était soudain dévoilée, vous reculeriez d'épouvante. Gardez-vous de juger sur les dehors. Certaines plantes vénéneuses croissent dans la pourriture. Souvent, elles brillent des plus vives couleurs. Ouvrez-les. Qu'y a-t-il dedans? Une poudre infecte et noire. Dans la société mauvaise et antichrétienne où vous vivez, il ne suffit pas toujours de régler ses actions sur la loi morale pour prospérer. L'obéissance à cette divine loi ne laisse pas néanmoins de porter son fruit immédiat. Jetez les yeux près de vous. Regardez cette famille dont les membres, fidèles au devoir, ne s'en écartent en aucune chose, où le produit du travail commun, consacré à pourvoir aux communs besoins, n'est jamais dissipé en de honteux plaisirs, où le père ne donne que de bons exemples, où la femme, occupée des soins domestiques, dévouée avec tendresse à son mari, à ses enfants, est pour eux l'objet d'une tendresse et d'un dévouement semblables. Cette famille, sans doute, n'est point à l'abri de la pauvreté. Qui, cependant, ne préférerait son sort à celui d'une famille plus favorisée de la fortune, mais en proie au désordre et à l'inconduite, où les querelles intestines, la jalousie, la haine naissent chaque jour, à chaque heure, de la violation des devoirs mutuels? On respecte celle-là, on se sent comme attiré vers elle par un sentiment affectueux et doux. On méprise celle-ci et on la fuit comme on fuirait un reptile immonde. Oh, qui serait une seule fois descendu au fond du cœur de l'homme de bien, de l'homme qu'anime l'amour de Dieu et l'amour de ses frères? Il y découvrirait de secrètes joies si vives, si pures, qu'il prendrait à dégoût toutes les autres joies. Ainsi, le premier effet du devoir est de diminuer les maux de la vie, d'en adoucir l'amertume et d'y mêler tout un ordre ineffable de jouissances inconnues à ceux que les passions mauvaises dominent ou que l'égoïsme concentre en eux-mêmes. N'y eût-il que ce prix attaché à son accomplissement, ne serait-il pas assez grand déjà? Mais le devoir rempli fidèlement produit encore un autre effet par le merveilleux enchaînement des lois qui constituent l'ordre. Il réalise le droit. Peuple, c'est par lui, uniquement par lui, que tu parviendras à recouvrer ceux dont l'injustice t'a dépouillé. Qui de vous pourrait lutter seul contre la puissance des oppresseurs? Il le briserait comme un vase d'argile. Pour les vaincre, il est nécessaire que vous soyez unis. Et quelle union possible si l'amour n'en est le lien? Si pleinement soumis à la loi du devoir, chacun de vous, respirant et vivant en ses frères, n'est prêt à se dévouer, à mourir pour eux. Vous avez d'abord à reconquérir votre dignité d'homme, le libre exercice de votre inaliénable souveraineté. Or, pour cela, que faut-il? Une volonté commune et un effort commun, c'est-à-dire la conscience du droit d'autrui comme de son droit propre, la fusion parfaite des intérêts en un seul intérêt. Autrement, ce ne serait pas le droit, ce serait un privilège que l'on réclamerait, et l'on aurait dès lors contre soi et ceux qui repoussent le privilège et ceux qui déjà jouissent du privilège. Si donc vous n'aimez vos frères comme vous-même, nulle espérance d'affranchissement. Résignez-vous à servir toujours. Vous n'avez à attendre que cela. Que si chacun de vous, au contraire, aime son frère comme soi-même, il ne souffrira point qu'on l'opprime. Il lui prêtera en toutes circonstances aide et secours contre la force inique, et de l'universelle charité sortira une résistance universelle à l'oppression. Lorsqu'on n'attaque que l'injustice, on triomphe tôt ou tard. Afin de triompher certainement, ne veuillez donc rien que de juste. Respectez le droit de ceux même qui ont foulé le vôtre aux pieds. Que la sûreté, la liberté, la propriété de tous sans exception vous soient sacrées, car le devoir s'étend à tous également. Si une fois vous violez le devoir, où s'arrêterait cette violation? Ce n'est point avec le désordre que l'on remédie au désordre. De quoi vous accusent vos ennemis? De vouloir uniquement substituer votre domination à leur domination, pour en abuser comme ils en abusent, de nourrir des pensées de vengeance, des projets de tyrannie, et de là, dans les esprits, une crainte vague dont ils profitent avec adresse pour prolonger votre asservissement. Dissipez ces fantômes sinistres évoqués par de détestables imposteurs afin d'intimider des hommes simples et bons et les détourner des voies de l'avenir. Proclamez le devoir en même temps que le droit. Ne les séparez point en vous-même. Qu'ils soient à jamais unis dans votre conscience et dans vos œuvres. Alors s'évanouira le plus grand obstacle à ce que vous désirez et devez désirer. Vous avez aussi à vous créer dans l'ordre matériel une existence moins précaire, moins dure, à combattre la faim, à faire en sorte d'assurer à vos femmes et à vos enfants le nécessaire, qui ne manque parmi toutes les créatures qu'à l'homme seul. Or, pourquoi vous manque-t-il? Parce que d'autres absorbent le fruit de votre labeur et s'en engraissent. Et d'où vient ce mal? De ce que chacun de vous, privé dans son isolement, des moyens d'établir et de soutenir une concurrence réelle entre le capital et le travail, est livré sans défense à l'avidité de ceux qui vous exploitent tous. Comment sortirez-vous de cette funeste dépendance? En vous unissant, en vous associant. Ce qu'un ne peut pas, 10 le peuvent, et 1000 encore mieux. Le castor solitaire vit à grand-peine dans le premier trou qu'il rencontre sur la rive du fleuve. Associé à d'autres castors, il bâtit en travers du courant de vastes et commodes demeures où ils vivent tous dans l'abondance. Mais aucune association n'est possible, aucune ne saurait prospérer si elle n'a pour base la confiance mutuelle, la probité, la conduite morale de ses membres, ainsi qu'une sage économie. L'injustice et la mauvaise foi, la paresse et l'intempérance la dissoudraient immédiatement. Au lieu de produire l'unité d'action, elle deviendrait une cause permanente de discorde et d'inimitié. La pratique rigoureuse du devoir est donc une condition indispensable de l'association. Bien plus, le devoir en est le principe générateur. Elle naît de lui spontanément, car en réalité, qu'est-elle, sinon la fraternité même, organisée pour atteindre plus plus sûrement et plus pleinement son but. Celui qui n'aimant que soi ne songe non plus qu'à soi, avec qui s'associerait-il? Et comment concevoir que ce qui sépare puisse s'unir jamais? Les mots mêmes sont contradictoires. Vous direz, il est vrai, l'association serait un puissant remède à nos maux. Mais ceux qui profitent de nos maux, en souffriront-ils le remède? Ils jetteront leur lot entre chacun de nous et ses frères, et tous nos efforts pour nous rapprocher seront vains, et les violences qu'ils provoqueront infailliblement contre nous aggraveront encore notre misère. Et moi je vous dis, veuillez seulement, et les lois inies disparaîtront soudain, et la violence des oppresseurs se brisera contre votre fermeté, inflexible et juste. Rien ne résiste à l'union du droit et du devoir. Souvenez-vous des castors. Vous êtes dispersés sur les bords du fleuve. Assemblez-vous, entendez-vous, et vous aurez bientôt opposé une digue inébranlable à ces eaux rapides et profondes.